vue d'ensemble de l'actualité.
Hier, j'ai parlé avec mon homologue chinois pendant environ 45 minutes, où on a vraiment fait l'état de la situation en disant il faut s'assurer que les quantités et la qualité du matériel qui vient au Canada soient respectées. Évidemment, on a envoyé nos propres appareils là-bas pour s'assurer que ce qu'on a commandé, ça vient bien chez nous.
Trainville PM.
Jean de la Mauricie, merci d'être là sur le 106.9. Luc Lavoie, c'est le ministre François-Philippe Champagne qu'on vient d'entendre.
Oui, parce que là, il joue toute une partie à l'échelle mondiale. Comment mettre la main sur l'équipement médical essentiel?
Mm-hmm.
Alors,
la guerre des masques!
La guerre des masques, puis la guerre des gants, puis la guerre des blues, puis
ouais,
écoute.
Ouais, ouais, ouais,
alors,
ouais.
Je vais faire un rapide tour d'horizon, puis après ça, je vais un peu m'attarder au cas des États-Unis, parce que ça devient quelque chose d'incroyable.
Ouais.
Alors, au Québec, on le sait, 6101 cas, 583 de plus, 25 décès de plus, donc 61. Au Canada, 12356 cas, 195 décès. Puis là, ben, à l'échelle mondiale, le chiffre est de plus en plus, 1,075,757 cas, 58,201 décès. Alors, on va aux États-Unis, Bernard.
Oui.
265,506 cas, 1,169 nouveaux décès à 24 heures, c'est-à-dire un total de 6,785. Alors, j'ai pris des notes d'un peu tout ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle, dans des centres de congrès, des salles sportives, des stationnements, des milliers de lits d'hôpitaux sont en train d'être installés, mais partout aux États-Unis, principalement avec la coordination du corps des ingénieurs de l'armée.
Mm.
Et là, on des milliers de lits s'ajoutent, mais il y a un problème qui est un peu complexe. Il manque de personnel soignant.
Ben, c'est ça, là.
Et là, il faut pas se faire d'illusions. On dit que, bon, c'est un grand pays, les États-Unis. On dit que la ville de New York et le New Jersey sont à peu près rendus au pic, là, ils arrivent, là, ils sont en plein dedans. Tandis que si tu regardes les autres villes, c'est plutôt, ça pourrait être distant de plusieurs semaines. Alors, on se prépare un peu partout, à Détroit, ils sont en train de construire un hôpital de 1000 petites chambrettes. L'armée construit 8 hôpitaux dans les États du New York, Illinois, Texas, Louisiane.
OK, fait qu'ils ont mis l'armée au travail, eux autres, là.
Oui, complètement.
Ouais.
Et selon un modèle épidémiologique qui a été développé par l'Université d'État de Washington, on prévoit que le vrai pic là, qui va couvrir tous les États-Unis, ça va être en mai. Fait qu'on a encore un mois à attendre d'avoir ça monté comme ça. Alors, hier, le maire de New York, Bill de Blasio, a lancé un appel aux gens en disant, à compter de maintenant, je pense qu'il serait préférable de se couvrir la bouche et le nez, là. Alors, des masques ou des foulards ou des écharpes. Puis là, il paraît que ça se multiplie. Il paraît que ce matin, dans les villes de New York, l'appel a été lancé hier. Il y avait à peu près 50% des gens qu'on voyait dans les rues qui en portaient déjà. Et il y a des couturières, imagine, dans les quartiers, les gens apprennent à s'entraider. Dans des quartiers, il y a des couturières qui se sont installées et les gens leur amènent du tissu. Puis à mesure que le tissu arrive, ils fabriquent des masques.
Ah oui. Enfin! Mais là, j'ai pas rêvé. Il y a quelqu'un qui a évoqué la possibilité que tous les Américains portent un masque.
Ben parce qu'à New York, ce que de Blasio a dit, c'est au début, on n'encourageait pas ça parce qu'on avait peur d'en manquer pour le personnel médical. Mais au point où on est rendu, il serait préférable que vous portiez tous quelque chose. Le N95, c'est l'idéal. L'autre type de masque commercial qu'on voit, là, que les gens portent attaché avec deux espèces de lanières, là, celui qu'on voit généralement, c'est moins bon, mais c'est mieux. Et ce que disait de Blasio hier, et des médecins sont venus le confirmer, une écharpe, un foulard, un masque fabriqué par vous-même, c'est déjà mieux que rien du tout.
Parce qu'ils font le pari que les gouttelettes, mettons, les plus grosses, ne passeront pas au travers du foulard, fait qu'il y aura une forme de protection liée à ça.
Voilà. Alors, la Floride a enfin décrété le confinement.
Et ça, c'est débile.
Mais sauf pour les lieux de culte. Puis tu sais que la Floride, il y a tout un espèce de groupe là, d'évangélistes plus crackpotes les uns que les autres. Là, puis ils font des assemblées de 200, 300 personnes. Puis politiquement, ils ont trop peur d'eux autres. Fait qu'ils ont décidé qu'on impose le confinement, sauf dans les lieux de culte. Mmh. Absolument incroyable.
Mais c'est vraiment brillant, là. Tu sais, regardez, vous aimez tellement le bon Dieu qu'on va vous faciliter le passage. Et on va précipiter votre rendez-vous.
Bien dit, Bernard.
Hein? Franchement.
Bien dit, Bernard. Mais là, il est en train de se passer un autre phénomène dans la région de New York. C'est que les médecins qui n'ont pas, qu'est-ce que tu veux, les remèdes, les médicaments pour traiter les gens qui sont atteints, ils essayent ce qu'ils peuvent. Hein? Ils essaient des affaires. Et là, ils ont commencé à avoir recours à de la vieille médecine qui remonte au début du 20e siècle, quand il y a eu des petites épidémies et quand il y a eu la grippe espagnole aussi. Et c'est que une personne qui a le coronavirus, qui traverse toute la maladie avec les symptômes et qui s'en sort en bonne santé et qui n'est plus contagieux, on peut tenir pour acquis que cette personne-là a des anticorps victorieux. Il y a des anticorps qui ont fonctionné. Alors, ce qu'on fait, c'est que on leur demande de donner du sang. On sépare le plasma, l'aspect liquide du sang, et c'est là que je trouve les anticorps. Puis on l'injecte à ceux qui ont des cas très graves ou presque désespérés.
Ah oui!
Et ça, évidemment, au début, il y a des médecins qui ont dit, ben là, c'est de la vieille médecine. Oui, mais c'est de la vieille médecine, mais elle a plein de bon sens. Là. Je suis pas médecin, là, mais si les anticorps ont marché sur un, je les donne à quelqu'un d'autre, il me semble. En tout cas, tu demanderas aux nombreux experts à qui tu parles, mais moi, il me semble que cela a un certain sens. Et pour en terminer avec les États-Unis, Bernard, il faut parler du rôle de ce sulfureux personnage qui est Jared Kushner. Jared Kushner, c'est un petit entrepreneur immobilier qui a même pas fait d'argent, qui a tout hérité ça de sa famille, qui a fini par aller à Harvard, puis qui a marié la fille d'un milliardaire, M. Trump. Et Jared Kushner est dans la Maison-Blanche depuis le début, puis on sait jamais de quoi il s'occupe, mais ça a l'air que ça dépend. Il attrape les dossiers. D'abord, c'est lui qui était responsable du processus de paix au Moyen-Orient. Bon, ben là, il a pris le contrôle de la pandémie. Et là, il y a des médecins qui disent, mais il va tous nous tuer, il sait pas ce qu'il fait, il connaît strictement rien là-dedans. Puis il paraît que ça grenouille, puis en plus, peut-être qu'il en aurait un petit peu pour lui-même. Là.
De quelle manière?
Il y a des programmes pour les gens qui ont des hypothèques, où on peut avoir une vacance de paiement pour X nombre de mois. Ça fait partie du package déposé par le président Trump. Mais Kushner, il y en a pour 800 millions de ces hypothèques-là. Peut-être que ça va l'aider beaucoup. Enfin, c'est ce que de nombreux médias rapportent.
Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour se retrouver?
Il a marié la fille de Trump.
Ouais, je comprends, mais... Je veux dire, pour marier la fille de Trump, il devait quoi? Il est arrivé avec une couple de dizaines de millions dans son compte de banque? C'est quoi?
Honnêtement, je veux te dire, Bernard, d'abord, c'est un beau garçon, là. Et deuxièmement, je connais du monde, des gens à Ottawa, au PMO en particulier, qui ont fait affaire avec lui, et on me dit que c'est pas complètement un idiot. Mais c'est quand même une anarchie qui règne à la Maison-Blanche. Puis là, à un moment donné, quand Kushner trouve que son beau-père a trop de difficultés, il saute dans le bain, puis il prend le contrôle. Fait que là, quand tu prends le contrôle des experts du Center for Disease Control et tous ceux-là, il y en a qui disent « De quoi est-ce qu'il se mêle, lui? » Mais ça, c'est la Maison-Blanche de Trump. Avant de nous quitter, je veux certainement qu'on parle de ce qui se passe en Angleterre. En Angleterre, ils ont eu 684 morts de plus dans les dernières 24 heures. Ils sont à 3605 et en accélération, à bien noter. Et là, ils ont construit un immense hôpital de campagne en plein cœur de Londres, construit par l'armée britannique, 4000 lits. Autre phénomène que j'ai découvert qui se passe en Angleterre, c'est que tu sais, les chiens guides là, comme Mira.
Oui.
Il y en a maintenant de ces chiens-là qui sont dressés pour détecter, par exemple, l'épilepsie. Alors, des gens qui souffrent d'épilepsie...
Ah oui, j'ai vu ça, moi, avec la députée d'Iberville.
Oui,
À un moment
Claire
donné...
Claire Samson, je pense.
Oui, c'est ça, Claire Samson. Le chien s'était mis à japper à un moment donné, en pleine chambre. En pleine chambre, parce que, ben, en tout cas, je
mais
sais
le,
pas...
Ce qu'on me dit, c'est que le chien est capable de détecter, mettons, l'épilepsie.
Avant que Claire Samson le sente venir, le chien le sent venir, la crise d'épilepsie.
Bon, ben alors là, l'Université de Durham en Angleterre, en étroite collaboration avec le Medical Detection Dogs Association, sont en train de dresser des chiens pour faire renifler des échantillons de coronavirus et que dès qu'ils vont sentir, ils vont être capables de dire « cette personne-là est atteinte ». Je ne sais pas si ça va marcher, mais quand tu dis que les gens font ce qu'ils peuvent pour que marche...
Oui, c'est
alors,
ça.
On va jeter un coup d'œil très rapide. En Italie, c'est encore 766 morts dans les dernières 24 heures, mais le rythme de croissance continue de décroître. Donc, ça vient confirmer qu'ils ont atteint le pic et qui sont sur une très lente descente.
Ouais.
En France,
ouais, on leur souhaite.
Des modèles ont été publiés en France. Le pic est prévu pour le 6 avril, c'est dans 3 jours. Alors, tu vois, il y a comme un calendrier qui diffère d'un pays à l'autre, d'une région du monde à l'autre. Et nous, on est derrière l'Europe par à peu près 3 semaines, 1 mois. Et c'est comme ça. Donc, cette pandémie-là, elle bouge géographiquement. Et puis, elle connaît ses taux de croissance. Puis, ce qui est assez troublant, Bernard, c'est que à mesure qu'on obtient des données, là, du big data, comme ils disent, qui vient de tous ces pays qui ont traversé toutes ces phases, il s'avère que le modèle italien ou espagnol, il se reproduit. On fait de la distanciation, je pense que c'est la bonne chose à faire, mais faut pas se faire d'illusions, là. Partout où ça passe, on voit la fameuse courbe qui monte, et tout le monde essaye la même chose. Arriver le plus rapidement au pic pour commencer à redescendre. Et c'est là qu'on s'en va. On est, nous, on dit qu'on serait, ce que je viens de lire, c'est que une semaine après Pâques, ce serait notre pic. On disait Pâques, là, mais on vient de prolonger d'une semaine. Okay. Une semaine après Pâques, là, c'est quand on va se faire frapper là, en plein front. Là.
Okay.
Puis là, on va voir à quelle vitesse, avec les mesures de confinement, puis tout ça, à quelle vitesse on est capable de faire descendre les affaires.
OK, fait que Pâques, c'est le 12, hein?
Ouais.
C'est le 12.
C'est-tu le 12?
Oui, oui, le 12, c'est le 12 avril, oui. Fait que là, ça veut dire que...
Ouais, c'est le 12, oui.
Donc... Une semaine, deux semaines. Donc, dans le la 18, semaine du 19, là, 19-20, ouais. Là, donc dans à peu près 3 semaines. Là, Luc, là, qu'est-ce que tu veux? On y échappera
on va,
pas.
On va être au top, là. On va être vraiment en haut.
Oui, mais comme tu viens de nous le dire avec l'Italie, c'est pas parce que tu arrives au top que les décès s'arrêtent automatiquement. Là. La courbe a monté plutôt lentement, on l'espère, mais elle va diminuer progressivement, là, c'est-à-dire qu'il va continuer à y avoir des décès puis des cas d'infection dans les semaines qui vont, et peut-être les mois qui vont suivre.
Dans le cas de l'Espagne et de l'Italie, ce qu'on voit, c'est justement ça, là. Il y a encore beaucoup de morts, des 700-800 par jour, mais ils ont cessé de croître. Puis la croissance des cas positifs, même chose. Donc, c'est là, tu sais, cette fameuse courbe que le docteur Arruda nous a montrée plusieurs fois puis qu'on a vue dans toutes sortes de journaux. C'est là qu'il faut arriver à la faire descendre.
Et je te dis, là, qu'il va falloir être discipliné. Parce que là, le beau temps va arriver, là. On va avoir le goût de sortir puis tout ça. Puis quand on va se faire dire, là, on a atteint le sommet puis on commence à descendre, là, la tentation, je pense, la nature humaine étant ce qu'elle est, il va y avoir une tentation de relâchement, là, tu sais, de dire, bon, ben là, on retourne à notre ancienne vie. Et c'est là qu'il va falloir faire très attention et être très vigilant parce que si on relâche trop vite, on va se faire rattraper, mon vieux.
C'est le pire danger qui nous guette. C'est qu'à un moment donné, on va dire, là, j'en peux plus, puis regarde s'il fait beau, puis ça a l'air que la courbe s'inverse, puis là, pourquoi pas, puis hey, Gérard, on va aller prendre une marche, puis on va voir nos voisins qu'on n'a pas vus. C'est ça qu'il faut pas faire. Ouais. Je le dis, je le répète, tout le monde le répète, on va être confiné comme ça pendant un bon bout de temps, mais j'aime mieux être confiné puis vivant que autre chose.
On s'entend là-dessus, mon Luc. Alors, écoute, je te laisse aller. T'as pas eu une semaine facile. Il y a des gens qui me posaient la question hier après qu'on se soit parlé. Qu'est-ce qui était arrivé à Luc? Parce qu'il avait pris la fin de notre discussion. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, Luc a perdu son père hier. Alors, c'est pas facile ce que tu vis présentement. Mais t'as décidé de rester en onde, notamment parce que de toute façon, tu ne peux pas te déplacer. Tu nous l'as expliqué. Les funérailles ne sont pas,
ne sont pas autorisées.
Alors, je vais te laisser aller. Et puis, tu vas prendre un petit vino pour nous, hein? Un peu avant que nous, on va pouvoir le faire, parce que nous, on reste en onde jusqu'à 15 heures. Mais je veux juste te dire, Luc, ça tente d'écouter le prochain bloc. On va se poser la question, est-ce que l'alcool est essentiel pour supporter le confinement?
Et je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas inclus dans cela.
Et est-ce que vous buvez plus depuis le début du confinement?
Tiens, je vais te la poser. Beaucoup de jus, de la limonade, je prends du jus d'orange.
OK, je te pose la question sérieusement. Est-ce que ta consommation a augmenté? Je pensais pas te poser la question, mais tiens, en s'en allant à la pause, pour mettre la table pour la discussion après.
Je vais te surprendre, la réponse c'est non. Si tu sais pourquoi... Parce que pour moi, l'alcool, ça a souvent beaucoup été une activité sociale. J'allais prendre un verre avec mes chums après le travail. Je rencontrais des gens pour souper, puis on prenait bien du vin. Mais là, installé chez moi, là, je me trouve un peu niaiseux après à boire en solitaire. Là. Tu sais, je comprends pas.
Fait que tu es capable de résister à la tentation d'un petit verre.
Non, je suis pas capable. C'est juste la quantité est pas mal ordinaire. Mais je ne suis pas capable de résister, je te le confirme. Okay. Je ne peux pas résister, Bernard.
OK, mais tu es
rassuré, là, j'espère.
Mais tu te modères. Tu modères tes transports.
Voilà.
OK,
voilà.
Bien, je vais demander à notre vaste public comment ils gèrent ça, leur consommation d'alcool, après la pause. Alors, je te laisse aller. Bonne fin de semaine.
Bon week-end, maman.
Prudent
aussi, sois prudent.
Oui, oui, t'en fais pas, je vais faire attention. Et donc, après la pause, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on va aller rejoindre Pierre Curzi. Pierre Curzi, écoutez, on cherchait quelqu'un, un bon vivant, avec lequel on pouvait parler de ce sujet-là, en riant un peu, parce qu'on aime ça, moi j'aime ça, prendre un bon petit verre, là, tu sais, je m'en suis jamais caché. Puis, en même temps, qui peut parler de la, comment dire, de la question de la modération, puis comment on fait pour pas verser dans l'exagération, tu sais. Alors, Pierre nous semblait un bon personnage avec lequel mettre la table. Puis après ça, je vous le dis, là, je vais vous poser la question, est-ce que pour vous, l'alcool, c'est essentiel? Puis est-ce que vous avez remarqué que vous buvez davantage depuis le début du confinement? Puis est-ce que ça vous travaille-tu un petit peu l'esprit? Tout ça, là, on va discuter de ça après la pause.